RFI, grand reportage.
Les djihadistes nous obligent à porter le voile intégral. Si tu ne le portes pas, ils peuvent te frapper ou te tuer. Mais si tu le portes, c'est avec les militaires que tu as des problèmes. Ils disent que tu es djihadiste, surtout si tu es peul, comme moi. Les soldats maliens prennent des gens, ils les torturent, ils les tuent. Entre les djihadistes et les militaires, nous ne savons plus quoi faire.
Ils viennent des régions de Ségou et de Mopti, dans le centre du Mali. Mais ils ont fui, tout récemment. Plus de 620 000 Maliens sont actuellement déplacés internes ou réfugiés dans les pays voisins, selon les Nations Unies. Après une période relativement stable, leur nombre a significativement augmenté au cours des derniers mois. Ces Maliens ont fui les persécutions djihadistes, celles du JNIM, notamment liées à Al-Qaïda. Ils ont également fui les exactions de l'armée malienne et de ses supplétifs russes, que Bamako continue de présenter comme de simples instructeurs, quand la plupart des pays africains, européens ou américains les désignent comme des mercenaires du groupe Wagner. Ils ont fui, enfin, les violences des chasseurs traditionnels d'Ozo, alliés des forces maliennes. Par mesure de sécurité, RFI a préservé l'anonymat de ces femmes et de ces hommes qui ont accepté de témoigner. Leurs noms sont modifiés, certains détails éludés. Mali, quand il ne reste que la fuite, récit de victimes, c'est un grand reportage de David Bachet.
J'étais parti à moto chercher des aliments bétail pour nourrir mes bêtes. J'ai croisé une patrouille de l'armée malienne. Ils m'ont arrêté et m'ont immédiatement accusé d'être un djihadiste.
Youssouf Sow a une vingtaine d'années. Il est berger dans le cercle de Niono, région de Ségou. Son village, il l'a quitté il y a 2 mois, après avoir été arrêté, détenu et torturé par l'armée malienne et par ses supplétifs russes.
Lorsque les militaires m'ont arrêté, ils m'ont attaché les mains derrière le dos, lié les pieds, bandé les yeux et ils m'ont emmené dans leur camp à Diabali. Là-bas, ils m'ont interrogé chaque jour pour me faire dire que j'étais djihadiste. Pendant 4 mois, ils m'ont interrogé, frappé, chicoté. Ils me disaient que j'étais un djihadiste parce que je suis un berger peul. Je leur répondais toujours que j'étais un simple berger, que je n'avais jamais eu de problème. Lorsqu'ils m'ont arrêté, il y avait des hommes blancs avec les militaires maliens. Au camp, ce sont les Russes qui me torturaient. Les soldats maliens n'étaient là que pour traduire.
Vous dites des Russes, comment est-ce que vous savez qu'ils étaient Russes ?
Les soldats maliens eux-mêmes, quand ils parlaient entre eux, disaient « les Russes ». J'ai aussi reconnu qu'ils ne parlaient pas français. Je n'ai jamais entendu le mot « Wagner », ils disaient « les Russes ». Moi et les autres prisonniers, ils nous ont torturés. Avec de l'électricité, il y avait un appareil électrique avec des fils qu'ils branchaient sur mes oreilles. Et ils répétaient, tout en me frappant, que j'étais un djihadiste. En général, ils étaient 3. Il y avait toujours un Russe. Quand ils branchaient le courant électrique, ils riaient. C'était un plaisir pour eux. Souvent, nous perdions connaissance. À d'autres prisonniers, ils ont carrément coupé les oreilles. Nous étions environ 40 détenus. Beaucoup ont été tués. Lorsqu'ils avaient bien torturé quelqu'un et qu'il était mort, ils nous montraient son cadavre, ils nous débandaient les yeux pour que nous puissions le regarder et ils nous obligeaient à le charger dans un pick-up. Tous les jours, ils me disaient que j'étais peul et donc que j'étais djihadiste.
Mais il y a des peuls dans l'armée malienne ?
Oui, bien sûr. J'ai même entendu des noms peuls parmi les soldats. J'ai essayé de leur parler, je voulais qu'ils appellent un militaire que je connais et qui aurait pu leur dire que je n'étais pas djihadiste, mais ils n'écoutaient pas.
Youssouf Sow raconte avoir été libéré au bout de 4 mois, en même temps que 14 autres prisonniers. C'est cette arrestation et ces tortures de l'armée et des Russes qui l'ont décidé à partir de chez lui, mais il témoigne également de l'oppression djihadiste que subit son village.
Les djihadistes viennent régulièrement dans le village, ça fait plusieurs années, mais surtout depuis 2 ans. Ils viennent nous voir au champ une fois par mois pour prélever l'aumône, c'est comme ça qu'ils disent. En fait, ils prennent une partie de notre récolte. Si quelqu'un produit 20 sacs de riz, ils en exigent 4, mais nous sommes pauvres, alors c'est trop pour nous. Si nous refusons, ils nous maltraitent. Donc on ne peut rien dire, on a peur qu'ils nous emmènent, qu'ils nous frappent, qu'ils nous tuent. Si on refuse, ils reviennent et ils prennent tout. C'est arrivé à un oncle. Il a essayé de dire que c'était trop, qu'il ne pouvait pas. Finalement, ils ont importé toute la récolte. Ils ont aussi fermé les écoles du village. Les djihadistes obligent aussi les femmes à porter le voile intégral et les hommes à couper leurs pantalons ou leurs boubous pour qu'ils soient courts. Ils ont aussi interdit la cigarette. Quand ils voient quelqu'un qui fume, ils le frappent. Ces règles, ils viennent les donner à la mosquée. Les djihadistes nous étouffent. Leur présence ne nous cause que des problèmes.
Quand ils entrent dans un village, les djihadistes ne se présentent pas. Ils arborent parfois le drapeau noir marqué de la shahada, la profession de foi musulmane, mais ne disent jamais ni leur nom, ni le groupe auquel ils appartiennent. Dans les régions de Ségou et de Mopti, il s'agit des combattants de la Katiba Massina, membre du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, allié d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Elle a près de 70 ans, les yeux qui brillent, le verbe saccadé et les traits fatigués. Fatoumata Diko vient du cercle de Ténenkou, région de Mopti, une zone infestée depuis de longues années par les djihadistes et dans laquelle l'armée malienne mène régulièrement des opérations très offensives.
L'armée vient souvent dans mon village. Des habitants ont été tués, d'autres arrêtés, d'autres encore se sont enfuis. Parfois, ils s'installent dans le village pendant un mois. Ils établissent leur campement juste à côté de nos maisons et ils occupent les lieux. Personne ne sort, personne ne rentre. J'avais tellement peur. Ils entrent dans les maisons. Ils vont porte par porte. Ce qu'ils trouvent, ils le prennent. Des couvertures, des nattes, des marmites, des motos. Ils emportent tout. Les bijoux et l'argent aussi. Et puis, ils frappent et ils tuent. Si tu as de la chance, ils te laissent tranquille. Mais parfois, ils tuent. Tous ceux qui essaient de leur échapper, qui courent, les soldats leur tirent dessus. Même si c'est un enfant, ils tirent. Tant que les militaires sont présents dans le village, tu dois rester chez toi.
Près de 1600 civils ont été assassinés, blessés ou portés disparus entre janvier et septembre dernier, selon les Nations Unies. Près de 55% des cas sont imputés aux djihadistes liés à Al-Qaïda ou au groupe État islamique. Mais les violences attribuées aux forces maliennes et à leurs alliés russes, pourtant censés protéger les populations, représentent près de 40% des cas. Fatoumata Diko garde un souvenir douloureux des soldats maliens.
Il y a 7 mois, ils sont entrés chez moi. Ils étaient 10. Quand ils sont arrivés, j'ai eu tellement peur que je me suis mise à crier. J'habitais avec ma fille et son mari, qui tient une boutique. J'étais dans une pièce collée à la boutique. Quand il m'a entendu crier, le mari de ma fille est venu voir ce qui se passait. Immédiatement, les militaires l'ont attrapé. Ils lui ont attaché les mains et ils l'ont fait sortir. Sans l'écouter, sans rien lui demander. Ensuite, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient dans sa boutique. Tout ça, ça s'est passé sous mes yeux. Après avoir tout volé, ils sont repartis avec mon beau-fils. Je les ai vus l'emmener. On l'a retrouvé plus tard en brousse, il était mort.
Comment est-ce que vous avez appris qu'il avait été tué ?
Quand les militaires ont quitté le village, on a commencé à sortir de chez nous. On a vu des flammes, plus loin, hors du village. D'abord, tout le monde avait trop peur. Mais après plusieurs jours, des hommes du village sont allés voir. Ils ont trouvé un grand trou avec une dizaine de corps. Les cadavres étaient complètement brûlés. On ne pouvait même pas reconnaître les gens. Mais tous ceux qui étaient sans nouvelles d'un parent ont bien compris.
L'armée n'est pas seule à combattre les djihadistes. Dans certaines zones désertées par les militaires, les chasseurs traditionnels d'Ozo se sont mués en groupes d'autodéfense. Ailleurs, ils servent de guide aux soldats maliens. Pour cet engagement, les Dozo paient régulièrement le prix du sang. Mais ils sont également accusés des pires violences. Baba Ould Béchir est un commerçant d'une cinquantaine d'années. Il a quitté son village du cercle de Niono, région de Ségou, il y a un mois, avec ses enfants, mais sans sa femme.
D'abord, les Dozo ont encerclé le village. Puis ils sont entrés dans les maisons. Ils ont commencé à frapper les gens, à voler. Ils prenaient tout ce qu'ils pouvaient, les bijoux, l'argent, le bétail. Ils ont tiré des coups de feu, ils ont tué des gens. Quand ils sont entrés dans ma boutique, ils m'ont attaché les mains derrière le dos et m'ont bandé les yeux. Ma femme et mes enfants étaient là. Les Dozo ont tout pris dans ma boutique et ils sont partis. C'est ma femme qui m'a détaché. Elle aussi, ils l'ont frappée. Elle était enceinte. Après l'attaque, elle s'est sentie faible. Elle s'est même évanouie. Elle est morte 3 jours plus tard. Après le départ des chasseurs d'Ozo, nous sommes tous restés enfermés chez nous. Le lendemain, nous avons découvert que 4 personnes, 4 commerçants avaient été tués. Ils avaient refusé de dire où ils cachaient leur argent.
Est-ce que vous les connaissez, ces chasseurs d'Ozo-là ?
Non, c'était la première fois qu'ils venaient dans le village. Auparavant, d'autres groupes de chasseurs d'Ozo étaient déjà venus. Ils passaient de temps en temps, mais ils ne s'en étaient jamais pris à personne. Je pense que cette fois-là, ils sont venus à cause des combats entre l'armée malienne et les djihadistes. Ils s'entretuent, mais les Dozo et l'armée malienne s'en prennent aussi à tous les Peuls et aux Arabes. Moi, je suis arabe, et dans mon village, il y a surtout des Peuls. C'est pour ça que j'ai décidé de partir. Je n'avais pas le choix. Ma femme est morte, J'ai perdu ma boutique, je n'avais plus les moyens de nourrir ma famille et j'avais peur. Peur qu'ils reviennent, peur qu'ils s'en prennent à mes enfants.
Les djihadistes contrôlent de vastes pans du territoire malien, particulièrement dans le centre. En comblant les manques d'un état défaillant et en proposant certains services de base, les djihadistes tentent de susciter l'adhésion des populations. Mais cette adhésion, difficilement mesurable, est toujours contrainte. Il faut respecter les règles. Dans le cas contraire, les djihadistes se livrent à des assassinats ciblés, des châtiments corporels, des enlèvements. Il y a 6 mois, Mahmoudou Ba était encore l'imam de son village, dans la région de Mopti.
Les djihadistes viennent souvent dans le village. Ils nous obligent à faire ce qu'ils disent, à porter des pantalons courts par exemple. S'ils te prennent avec le pantalon au-dessous des chevilles, ils le coupent eux-mêmes. Le problème, c'est que si ensuite tu rencontres les militaires avec un pantalon coupé, les militaires t'accusent d'être un djihadiste, alors qu'on ne fait qu'obéir parce qu'on a peur. C'est très dur, surtout pour les Peuls. Si tu es Peul, les djihadistes te demandent de les rejoindre. Ils veulent que tous les Peuls les rejoignent et prennent les armes. Et ce n'est pas mieux avec les militaires. Pour eux, tous les Peuls sont des djihadistes. Alors ils s'en prennent surtout aux Peuls.
La Katiba Massina du Jnim est dirigée par le prédicateur Peul Amadoun Koufa. Attisant de vieilles tensions intercommunautaires liées au partage des puits ou des pâturages, ces djihadistes tentent de se présenter comme des défenseurs de la communauté Peul. Dans ce contexte de rivalités intercommunautaires locales, mais aussi face aux exactions de l'armée. Car de nombreuses organisations communautaires ou de défense des droits humains, maliennes et internationales, dénoncent le ciblage de l'ethnie Peul dans les opérations antiterroristes de l'armée. Les autorités maliennes de transition rejettent totalement ces accusations, destinées selon elles à déstabiliser le Mali.
Est-ce que vous-même, les djihadistes, s'en sont pris à vous, personnellement ?
Moi, j'étais l'imam dans mon village. Alors à chaque fois qu'ils venaient, ils me parlaient et ils me demandaient de les rejoindre. Je leur répondais que je ne voulais pas faire partie de leur groupe, que je ne voulais pas faire comme eux. Je leur disais de me laisser tranquille, que je voulais rester au village, avec ma famille. Mais ils revenaient toujours et ils essayaient de me convaincre. Je leur ai expliqué que puisqu'ils avaient des armes, nous étions obligés de nous soumettre, mais que je ne voulais pas me joindre à eux.
Ils prétendent défendre l'islam ? Vous êtes imam ? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec eux ?
Leurs pratiques n'ont rien à voir avec nos propres coutumes religieuses. Ce n'est pas ce que nous ont transmis nos parents et nos grands-parents. Par exemple, la zakat. Ils obligent les gens à leur donner une partie de leur récolte. Ils disent que c'est l'impôt islamique. Et ils l'exigent même des gens qui sont pauvres, même si leur récolte n'est pas suffisante. Mais l'islam ne permet pas cela. En islam, tu donnes la zakat si tu en as les moyens. Il ne s'agit pas de voler des pauvres par la force. Et puis les djihadistes ne respectent pas nos marabouts, ceux qui enseignent traditionnellement l'islam dans nos villages. Ils ne respectent pas la parole de nos vieux. Ils disent qu'ils font le djihad pour imposer l'islam. Mais nous, nous sommes déjà des musulmans. Les gens qu'ils trouvent dans nos villages prient déjà et respectent la religion. Les érudits qui ont pensé l'islam bien avant eux nous enseignent qu'on ne peut obliger personne. Les djihadistes, eux, ils veulent tout imposer par les armes. La religion, c'est quelque chose qu'on transmet de manière pacifique. On peut étendre l'islam par la parole, on peut essayer de convaincre quelqu'un, mais on ne doit pas l'obliger en le frappant. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec les djihadistes.
Est-ce qu'ils vous ont déjà menacé pour que vous-même, vous preniez leurs règles auprès des fidèles ?
Oui, ils m'ont même posé un ultimatum. Comme ils n'arrivaient pas à me convaincre, finalement, ils m'ont donné 1 mois pour les rejoindre. Alors j'ai fui avec ma famille avant la fin de ce délai. Ils m'avaient prévenu que si je n'acceptais pas, ils m'emmèneraient de force et mon sort dépendrait de leur charia. J'ai compris que si je ne les rejoignais pas, ils allaient me tuer.
Daoud Ould Ahmed a une 30aine d'années et un visage inquiet. Il a quitté le cercle de Niono il y a 7 mois, avec femme et enfants. Alors que son village était soumis à l'oppression djihadiste, ce commerçant a subi les violences de l'armée malienne et de ses supplétifs russes. Mais avant cela, ce sont les chasseurs traditionnels d'Ozo qui s'en sont pris à lui.
Je revenais du marché de Niono lorsque je suis tombé sur un poste de chasseurs d'Ozo. Ils m'ont demandé d'où je venais, où j'allais et ce que je transportais. C'était des pièces détachées de véhicules que je revends. Je leur ai donné ma carte d'identité, mais malgré ça, ils ont pris ma moto, mes marchandises et m'ont emmené avec eux, dans leur camp. J'avais les bras attachés dans le dos et les pieds liés. Ils m'ont demandé « Si nous venons te voir, tu nous vendras des pièces ?» J'ai répondu oui. Et si les djihadistes viennent te voir, tu leur vendras ? J'ai dit oui aussi. Je suis un commerçant. Ils m'ont dit que si je vendais des choses aux djihadistes, ça voulait dire que j'étais avec eux. J'ai répété que je ne m'occupais pas de l'identité de mes clients. Je suis un commerçant, c'est tout.
Combien de temps est-ce qu'ils vous ont gardé prisonnier dans leur camp ? Comment est-ce que vous avez été traité ? Et est-ce qu'il y avait d'autres prisonniers ?
Je suis resté 7 jours. J'ai vu d'autres prisonniers, 10. Mais nous n'étions pas gardés ensemble. Chaque jour, les dozos me disaient qu'ils allaient me tuer. Ils ont même tué des prisonniers sous mes yeux. Ils leur ont tiré dessus avec leurs fusils. Ils les accusaient d'être des djihadistes. Mais moi, je connaissais certains d'entre eux et je sais qu'ils n'étaient pas djihadistes. Ils m'ont frappé chaque jour, plusieurs fois. Ils ont mis un couteau sous ma gorge en disant qu'ils allaient m'égorger. Un jour, ils m'ont emmené en brousse et ils ont fait semblant de m'exécuter en tirant 2 balles au-dessus de ma tête. Et finalement, ils m'ont abandonné là.
C'est à cause de cet événement que vous avez décidé de partir ?
Ce n'est pas seulement à cause des chasseurs d'ozo. Il y a aussi les soldats maliens et les Russes. Quand ils viennent, ils tuent, ils volent. Ils sont déjà venus dans mon village. Ils ont absolument tout volé. Ce jour-là, ils ont tué 14 personnes et emmené 30 d'hommes. Je ne sais toujours pas ce qu'ils sont devenus.
L'armée malienne a lancé l'opération antiterroriste Keletigui il y a près d'un an, avec l'appui de ses supplétifs russes, estimés à plus d'un millier d'hommes. Depuis, les allégations d'exactions se sont multipliées. Le cas du village de Moura, 200 à 500 morts selon les sources, accompagné de tortures, de pillages et de dizaines de viols, est le plus emblématique. Mais il faudrait ajouter des dizaines de localités et la liste ne cesse de s'allonger.
Vous avez parlé des Russes tout à l'heure. Ce jour-là, les Russes étaient présents avec l'armée malienne ?
Non. Les Russes, je les ai vus à un autre moment. Après ce qui était arrivé, j'étais parti m'installer avec ma famille dans un autre village, pas très loin. Je voulais me mettre en sécurité avec ma famille. Mais 3 mois plus tard, les Russes sont arrivés. Ils étaient avec l'armée malienne. Mais il y avait beaucoup plus de Russes que de Maliens. Ils ont encerclé le village avec leurs véhicules. Il y avait aussi des avions qui nous survolaient seulement. Et puis les Russes et les soldats maliens sont entrés dans le village. Ils n'ont rien laissé. Les marmites, les couvertures, les nattes, les bijoux, l'argent, les marchandises dans les boutiques. Ils ont tout pris, même notre nourriture. Les sacs de riz, les téléphones, ils n'ont rien laissé. 6 villageois ont été arrêtés. Ils les ont tués à l'extérieur du village. On a retrouvé les corps après leur départ.
Vous dites qu'il y avait des Russes avec les soldats maliens. Comment est-ce que vous savez qu'ils étaient Russes ?
Les soldats maliens, on les reconnaît. Là, il y avait des Blancs. C'est pour ça que je parle des Russes.
Vous les avez entendus parler ?
Oui, mais je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Je comprends un peu le français. Je peux dire que c'était une autre langue. Mais je ne comprenais pas. Par contre, ce sont les Russes qui décidaient et qui faisaient tout. Les soldats maliens regardaient seulement.
Face aux accusations d'exaction, les autorités maliennes de transition opposent un démenti constant. Selon les communiqués successifs, les soldats maliens ne commettent jamais de violence contre les civils. Des enquêtes sont ouvertes à chaque allégation, aucun résultat n'a jamais été communiqué. Et ces accusations non fondées ne visent qu'à ternir la réputation de l'armée et à déstabiliser le Mali. C'est d'ailleurs après la diffusion de premiers témoignages de victimes qu'en mars dernier, RFI a été coupé au Mali. Les Nations Unies s'inquiètent de la dégradation de la situation sécuritaire au Mali et de l'extension géographique de la présence djihadiste. Le gouvernement malien de transition se félicite quant à lui des progrès accomplis et parle de terroristes en débandade. Quant aux victimes rencontrées par RFI, prises entre les feux croisés de leurs multiples bourreaux, elles demandent sécurité et justice, sans plus y croire.
Avant, j'avais confiance en l'armée malienne. Maintenant, je ne peux plus. Et les djihadistes ne posent que des problèmes. Quand je suis au village et que les djihadistes viennent, ils m'accusent d'être avec les militaires. Quand je suis en brousse et que je rencontre les militaires, ils disent que je suis djihadiste. J'avais toujours peur, c'est pour ça que je suis parti.
Mali, quand il ne reste que la fuite, récit de victimes, un grand reportage de David Bachet, réalisation Eva Piedel.